Voici les titres du journal.
À Montreux, c'est bien une commission classique qui s'occupera de l'aménagement du territoire. Les élus ont refusé à une voix près de confier cette importante tâche à une commission permanente. Les grues n'ont pas terminé de s'élever à Aigle puisque la commune entame un cycle d'investissement important. Elle augmente pour cela son plein fonds d'investissement de 35%. Ensemble à gauche lance 5 candidats dans la course à l'élection du gouvernement vaudois. 4 femmes et un homme, dont 3 sont députés au Grand Conseil, avec un programme fort et ambitieux basé sur 5 axes. La pénurie de logements dans le canton de Vaud disparaît peu à peu d'après une étude de l'Observatoire BCV de l'économie vaudoise. Elle révèle également que les attentes des locataires ont évolué durant la pandémie. Et la 13e édition de l'international Chablais Hockey Trophy a attiré de nombreux recruteurs de toute la planète. Et en basket, l'équipe de Suisse féminine lance aujourd'hui sa campagne de qualification pour l'Euro 2023.
Pour la météo, Météo Suisse nous annonce un temps bien ensoleillé pour cet après-midi et pour demain. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour. Pas de commission permanente de l'aménagement du territoire à Montreux. Les élus l'ont décidé ainsi hier soir lors du conseil communal. Ils ont refusé de suivre une motion qui demandait la modification du règlement du législatif. Et le vote a été serré. 43 oui, 42 non et une abstention. L'idée était de former une commission fixe qui aurait eu la tâche de se pencher sur le PACOM, le plan d'affectation communale. Un gros morceau et un travail de longue haleine pour Montreux. Et pour le socialiste Romain Piou, les président du rapport de minorité. La décision prise par le conseil communal est un soulagement.
Je pense que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas cette commission. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup travailler, c'est vrai, pour réaliser notre futur plan d'affectation communale. Et pour ça, il y a beaucoup de travail. Mais c'est vrai que nous, on est assez contents de pouvoir essayer de proposer des modèles qui permettent un peu plus de participation de la population. Par exemple, une commission consultative qui permettrait d'entendre les citoyens, d'entendre les associations actives dans le domaine, pour pouvoir aussi un petit peu avoir des regards extérieurs. Il faut dire que cette commission permanente, elle aurait traité non seulement du plan d'affectation globale, mais aussi de tous les petits plans d'affectation futurs. Et ça, c'est les quartiers, c'est les villages. Et puis, ça peut être assez important qu'il y ait des conseillères et des conseillers communaux qui puissent traiter des villages d'où ils viennent également. Et ça, c'est vraiment un atout que ne permettait pas la commission permanente, à contrario d'une commission qu'on nommerait au cas par cas.
Du côté du rapport de majorité, on regrette évidemment de ne pas avoir été suivi. On écoute son président, l'UDC Tal Luder.
Je pense que c'est pas une bonne décision de ne pas la prendre en compte. Parce que ce qui ressort de chez les opposants, c'est à chaque fois, la représentativité va être appauvrie, il y a des gens qui n'auront pas la parole. Et dans la liste d'arguments de ce qu'on peut faire avant, en amont et avant le traitement par le Conseil, qui de toute façon, in fine, statuera sur ces objets, que ce soit par une commission ad hoc ou une permanente, en fait, il y a beaucoup d'étapes et beaucoup de gens qui peuvent s'exprimer. Et comme je l'ai dit, avec 20 commissaires qui peuvent être nommés entre les 10 permanents et les suppléants, il y a quand même 20% du Conseil qui pourrait être représenté dans cette commission. C'est énorme. C'est pas dit que 20% du Conseil s'intéresse forcément à se spécialiser dans l'aménagement du territoire. Donc 20% pour moi, c'est déjà un conseiller sur 5. C'est beaucoup.
Des propos recueillis par Quentin Frey. Lors du conseil communal d'hier, le budget a aussi été présenté. Il affiche un excédent de charges d'environ 6,7 millions de francs sur une enveloppe globale de passé 153 millions. Il sera voté le 15 décembre prochain.
L'espace événement des Glariers, l'hôtel de ville ou même la piscine.
Des investissements qui sont au budget 2022 de la commune d'Aigle qui commence un cycle d'investissements importants qui vont s'étaler durant la législature. Le plafond d'endettement devra dès lors être augmenté de 100 à 135 millions de francs. Ceci pour autant que le conseil communal Aiglon valide cette hausse. Des investissements nécessaires au développement de la commune, comme l'explique le syndic Aiglon, Grégory Deveau.
On a peut-être plus une politique d'opportunité jusqu'ici, de planification aussi, et puis là on voit bien que les investissements vont se concentrer sur 5 ans, disons au minimum, et puis il est important de pouvoir avoir une vraie bonne visibilité sur ces éléments-là, sur ces investissements, parce qu'ils impactent finalement aussi notre budget et les charges au quotidien. Donc on pense en particulier à tout ce qui concerne l'agglomération, on a des plans qui sont en vigueur, et puis des réalisations à pouvoir amener sur le terrain pour bénéficier de ces contributions-là. La Confédération, ça concerne des routes, ça concerne des espaces comme la gare et tout ce qui concerne la mobilité douce, d'une part. D'autre part, tous des investissements en lien avec le chauffage à distance qu'on prévoit de faire venir jusqu'à Aigle avec la SATOM, donc là aussi des réflexions routières importantes. Et puis, tout ce qui concerne bien sûr les investissements votés, déjà décidés, je pense à l'hôtel de ville, je pense à l'espace événement des Glariers, et puis l'accompagnement aussi de l'implantation du gymnase Cotonnal à Aigle.
Grégory Devaux répondait à Valérie Blom. Le taux d'imposition Aiglon devrait quant à lui rester stable. La capacité de financement quant à elle devrait augmenter à 2,8 millions de francs, soit 300 000 francs de plus qu'en 2021.
Ils seront cinq.
Cinq candidats de la gauche radicale à se présenter aux prochaines élections cantonales vaudoises. Quatre femmes et un homme, dont la Boélande Taranéa Mignon, la Veuvezanne Élodie Lopez et le Lausannois Adrien Buclin, tous les trois députés au Grand Conseil. La militante internationaliste Gabriella Lima et l'hiverdonoise Mathilde Maranda viennent compléter la liste. Ils ont présenté hier devant la presse leur programme basé sur cinq axes, notamment l'urgence climatique, mais aussi la mobilité et la fiscalité, car pour eux, il devient plus que nécessaire de changer la politique actuelle et surtout avec la situation sanitaire et ce qu'elle amène. Écoutez à ce propos la Veuvezanne Élodie Lopez, candidate et députée au Grand Conseil.
C'est ce qu'on a tous espéré. Je crois qu'il y a un espoir qui a émergé pendant la pandémie de voir advenir un monde différent. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est plutôt en train de repartir sur le même rail qu'avant. Ce qui est sûr, c'est que pour se rendre compte de ce que les scientifiques appellent à notre attention depuis des années, il y avait ce truc de se dire oui, c'est lointain, ça ne nous touche pas. Je crois qu'on s'est tous et toutes confrontés à un moment donné où on s'est dit oh, il va falloir qu'on change la donne. On n'est pas parti dans cette direction, mais j'espère que c'est pas trop tard. Et puis ce que je crois aussi, c'est que ça a permis d'exacerber en fait des inégalités aujourd'hui dont on prendra conscience collectivement pour pouvoir avancer.
Des propos recueillis par Léa Journeau. Réuni en séance hier soir, le conseil communal de Bé a approuvé les trois préavis qui lui étaient soumis. Le premier concernait le financement du prolongement du passage inférieur de la gare CFF en direction de la route de Vanel. Le second avait trait à l'affichage numérique scolaire en faveur de l'établissement primaire et secondaire de Bé. Le dernier avait pour objet l'adoption du volet stratégique du plan directeur intercommunal Chablais-Aglo. Deux de ces trois préavis ont été adoptés à l'unanimité. Celui consacré à l'affichage numérique scolaire a nécessité en revanche une bonne heure de discussion. Le législatif Bellerin a en outre envoyé un postulat à la municipalité à propos de la pose d'une armoire à livres au parc Ausset. Et écoutez aussi la réponse de l'exécutif concernant la protection contre les cyberattaques. Une formation en ce sens sera proposée au personnel communal l'an prochain. Le CHUV et Unisanté ont ouvert une consultation spécifique pour les patients qui se plaignent de symptômes persistants après une phase aiguë de Covid-19. Un premier bilan après 6 mois montre qu'une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire pour ce Covid long qui s'apparente à une maladie chronique. Les effets à long terme du Covid-19 peuvent se révéler très invalidants, explique aujourd'hui Unisanté dans un communiqué. Des mois après, des patients présentent encore un ou plusieurs symptômes liés au Covid-19 comme la fatigue, les problèmes respiratoires ou la perte d'odorat et de goût. Ce syndrome apparaît parfois après avoir développé une forme asymptomatique de la maladie.
La pénurie de logements dans le canton de Vaud est en train de disparaître.
Pour la 4e étude de l'Observatoire BCV de l'économie vaudoise sur le sujet, les conclusions sont, du moins pour la période actuelle et de manière globale, plutôt réjouissantes. Et le risque de bulle immobilière et financière est pour le moment évité. Confirmation de François Yeni, auteur de l'étude chez CBRE Switzerland.
Alors sur le marché locatif, comme le montre l'étude, en fait les prix sont stagnants, voire à la baisse, à cause de la vacance dont on fait état, qui est maintenant au-delà du seuil d'équilibre. Sur la propriété, les prix continuent à augmenter parce que, aussi en partie du fait du Covid, mais simplement intrinsèquement, il y a beaucoup de ménages qui continuent à aspirer à la propriété. C'est pas le sujet de l'étude, mais la question des surfaces de bureaux, par contre, se pose peut-être avec plus d'acuité, puisqu'il y a quand même tout un certain nombre de structures qui, pour l'instant, permettent encore une grande part de télétravail, et il y a peut-être là, pour le coup, peut-être plus de risques de surfaces excédentaires qu'on en aura dans les logements des villes, notamment.
La crise du Covid a cependant modifié certaines attentes des locataires envers leur domicile. Volonté d'un balcon en cas de confinement, pièces supplémentaires pour le télétravail, des facteurs qui seront sans doute plus pris en compte pour les futures recherches. On retrouve François Yeni, auteur de l'étude.
Une chose qu'on sait, c'est que les gens qui habitent en ville, ils comptent souvent sur toute une série de services que la ville leur offre, de pouvoir aller dans les parcs, de pouvoir aller dans les cafés pour travailler ou simplement se distraire, de pouvoir aller dans les coworking ou autres. Et donc, pas tout le monde avait des logements dans le fond dans lequel il y avait cette fameuse pièce de plus qui permettait, notamment quand on a des jeunes enfants, de vivre et travailler tous ensemble pendant plusieurs journées ou plusieurs semaines. Donc, c'est sûr que quand ces lieux, un peu des tiers-lieux, comme on dit, sont fermés, eh bien, on se retrouve confiné chez soi et on va forcément intégrer ça à ces critères de recherche future de logement. Ce n'est pas pour autant que les gens vont changer radicalement et tout de suite leur situation résidentielle, déjà parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire, mais aussi parce que, heureusement, on est peut-être en train de voir la fin de la pandémie. Mais certainement que l'idée d'une pandémie future va maintenant être intégrée au même titre que la mobilité, au même titre qu'un certain nombre d'autres critères dans le choix que les ménages feront.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM. Les auteurs de l'étude ont également réalisé des scénarios sur la population vaudoise en 2040. Le scénario moyen table sur 163 000 nouveaux habitants. Virginie Masseret-Spicher quitte l'OFSP. Elle prendra la tête de la Direction Générale de la Santé de l'État de Vaud à partir du 1er avril prochain. Travaillant depuis 2002 à l'Office fédéral de la santé publique, elle est actuellement chef de la section contrôle de l'infection et programme de vaccination. Médecin et infectiologue, elle aura notamment été le visage de l'OFSP durant la crise du Covid-19. La Confédération ne s'attend pas à une vague de réfugiés afghans après la prise du pouvoir des talibans, confirmant ainsi ses évaluations des semaines précédentes. Le secrétariat d'État aux migrations estime que les demandes d'asile n'augmenteront que légèrement et que leur nombre dépendra surtout de la situation sur place.
Les cantons romands pauvres peuvent se réjouir.
Excepté le Jura, ils recevront davantage d'argent que prévu en 2022 au titre de la péréquation financière. Le Conseil fédéral confirme ainsi les annonces de juin. Le canton de Vaud recevra environ 115 millions de francs alors que le Valais touchera 800 millions. En revanche, tendance différente pour Genève, seul canton roman à fort potentiel de ressources. La ville du bout du lac devra verser 150 millions de francs l'an prochain. À l'échelle nationale, Zurich est le canton qui redistribue le plus avec un peu plus de 490 millions.
Elles sont près de 4400 à avoir joué le jeu.
Institutions, organisations ou encore entreprises, dont Radio Chablais, ont ouvert leurs portes aujourd'hui à des milliers de filles et garçons à l'occasion de la journée future en tout genre. Les enfants ont pu accompagner un parent ou un proche et découvrir son travail. L'occasion pour eux d'avoir un aperçu du monde du travail dans des domaines qui leur étaient inconnus. La journée future en tout genre n'avait pas eu lieu l'an dernier en raison de la pandémie. La prochaine se déroulera le 10 novembre 2022. 60 ouvriers se relayent et s'activent 24 heures sur 24 pour établir la ligne CFF entre Genève et Lausanne, victime d'un affaissement du sol à la hauteur de Tolochna dans le canton de Vaud. Le bétonnage des trous et la pose de micropieux pour stabiliser le terrain se poursuivent aujourd'hui. L'objectif est toujours de rétablir la liaison d'ici demain matin à l'aube pour le début des services des trains voyageurs, a indiqué ce matin Frédéric Reva, porte-parole au CFF, à nos confrères de Keystone ATS.
Le nouveau chef des espions suisses est valaisan.
La Confédération a annoncé que Christian Dussé sera le prochain directeur du service de renseignement. L'actuel ambassadeur de Suisse en Iran a été nommé hier par le Conseil fédéral. Le quinquagénaire remplacera Jean-Philippe Gaudin, qui a quitté le SRC au 31 août après l'affaire Crypto. Christian Dussé prendra ses fonctions le 1er avril 2022.
La Suisse signe un accord climatique avec Vanuatu à la COP26 de Glasgow.
La Suisse pourra s'appuyer sur un nouvel accord pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre en finançant des projets à l'étranger. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga Gala signé ce matin à Glasgow, a indiqué une de ses porte-paroles. Du côté du Vanuatu, le ministre du changement climatique, Bruno Lincoln, était présent pour cette cérémonie. Le principal projet permettra de relier, grâce à une technologie suisse, des panneaux photovoltaïques entre eux. Il sera déployé au total sur les 60 îles habitées de Vanuatu. La tension ne faiblit pas entre la Pologne et le Bélarus, accusé de terrorisme d'État hier par Varsovie, qui a renvoyé des centaines de migrants, surtout des Kurdes irakiens ayant franchi sa frontière orientale. Alors que les grandes capitales s'activent pour tenter de désamorcer la crise sur le terrain, la situation reste précaire sur ce qui constitue la limite orientale de l'Union européenne. Plus de 2000 migrants campent par une météo glaciale depuis plusieurs jours dans une zone boisée où, de son côté, la Pologne a déployé une clôture de barbelés aux coupons et pas moins de 15 000 soldats pour leur barrer la route, en plus de la police et des gardes frontières. Les Européens accusent depuis des semaines le président bélarusse Alexandre Loukachenko d'alimenter la crise en délivrant des visas à des migrants et en les acheminant à la frontière pour se venger de sanctions européennes.
On nous a fait la guerre, nous avons répondu.
Ce sont les mots de l'ex-président François Hollande. L'ex-président français est entendu actuellement comme témoin au procès sous haute sécurité des attentats du 13 novembre 2015. Il a justifié hier sa politique étrangère au Moyen-Orient et répondu aux polémiques. Droit à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris, costume sombre sur chemise blanche, François Hollande a raconté son 13 novembre et explicité les décisions prises lors de cette nuit funeste, mais aussi celles des mois qui l'ont précédé et suivi. Dans une salle d'audience comble, l'ex-chef de l'État a promis de répondre à toutes les questions des parties civiles sur d'éventuels ratés des autorités, notamment, et l'incapacité de la France à déjouer un attentat de grande ampleur. La justice européenne a confirmé hier une amende de 2,4 milliards d'euros infligée par Bruxelles à Google. Le géant américain est accusé de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix. Le tribunal de l'UE basé à Luxembourg a rejeté un recours du géant américain de l'Internet en constatant qu'il avait bien abusé de sa position dominante en favorisant son propre comparateur de produits par rapport aux comparateurs concurrents. Google a toutefois la possibilité de contester cette décision devant la juridiction supérieure, la Cour de justice de l'UE. L'International Chablais Hockey Trophy attire du beau monde cette année. Si les sélections nationales de moins de 18 ans présentes à Monté font partie des meilleures de la planète, les spectateurs assis dans les tribunes ne sont pas en reste. Dans cette catégorie d'âge, les joueurs attirent toutes les convoitises. De nombreux recruteurs ont ainsi fait le déplacement cette année dans le Bas-Valais. Leur but, dénicher l'une des futures stars de demain. Et dans cette optique, un tournoi comme l'ICHT est une excellente opportunité. Les explications du Québécois Stéphane Leblanc, recruteur pour la franchise nord-américaine de NHL des Columbus Blue Jackets.
Ça nous permet d'en voir beaucoup, mais aussi ça nous permet d'y voir dans le, avec leurs pairs, avec les mêmes joueurs de leur groupe d'âge, parce que parfois, il y a certains joueurs qui jouent avec des équipes professionnelles, il y en a qui jouent avec des équipes juniors, donc le calibre est souvent différent, donc c'est difficile à comparer, mais là, on les voit sur un pied d'égalité, ça fait que c'est une bonne opportunité.
Stéphane Leblanc au micro de Ludovic Turin. A noter que lors de la première journée de l'International Chablais Hockey Trophy hier, la Suisse a été battue 6-1 par la Finlande. Les Helvètes auront la possibilité de se relancer dès ce soir à 20h contre les États-Unis. Quant au match de 14h, il mettra aux prises la Suède et la République tchèque.
En basket, l'équipe de Suisse féminine affronte le Luxembourg ce soir.
Premier rassemblement de la saison pour les Suisses qui vont disputer leur premier match pour le compte des qualifications à l'Euro 2023. Après cette première partie qui se joue ce soir à 19h. Les protégés de Domenico Vincenzo défieront la Slovaquie à Fribourg dimanche soir. Deux rencontres qui sont à la portée des Suissesses, même si un tout nouvel encadrement est en place au sein de la sélection, avec notamment la présence de la Chorgue Katia Clément qui épaule le coach principal. Mais pas de quoi perturber la Chablaisienne Eva Rouga, membre de cette formation helvétique.
Ça se passe vraiment bien. Enfin, Domenico, on le connaissait déjà depuis maintenant quelques années parce que c'était l'assistant coach avant. Et puis voilà, il apporte sa manière de faire, il apporte des exercices en plus, une vision du basket qui est différente de Damien. Donc s'il y a des points positifs, oui, c'est clair.
Ces points positifs, vous l'avez dit, hein, ce sont ces changements apportés concrètement. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse va afficher un nouveau visage? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourra vraiment voir de différentes sur le terrain?
Je pense que oui, on verra quand même des détails qui sont différents. Maintenant, on est une équipe où on ne peut pas non plus tout changer parce qu'on a un peu le même profil que l'année passée. Donc voilà, il y aura des choses qui seront semblables et puis des choses, différentes.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Le premier match des Suissesses a donc lieu ce soir dès 19h face à la Slovaquie. Elles affronteront ensuite la Slovaquie à dimanche à Fribourg pour le compte des qualifications de l'Euro 2023.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Evosun à Massonger, borne de recharge solaire photovoltaïque et toiture, votre partenaire pour faire le plein d'énergie. Devis sans engagement sur evosun.ch.
Selon Météo Suisse, le temps de ce jeudi sera bien ensoleillé malgré quelques voiles nuageux. Il va faire 10 degrés en plaine, 13 à 1000 mètres et 11 à 2000 mètres. Pour demain, toujours un temps bien ensoleillé avec sur la Riviera et la plaine du Chablais quelques bancs de brouillard ou de brume probables. Le matin, il va faire 11 degrés au maximum demain en plaine, 12 à 1000 mètres et 10 à 2000 mètres.